Chapitre 8. Rires tonitruants et invectives ponctuent le brouhaha de la brasserie des martyrs. Dans le quartier de Pigalle, l'endroit est réputé. En fin de journée, les contremaîtres des nombreux chantiers environnants ont pour habitude de s'y retrouver avant les artistes et poètes qui s'y attarderont bien plus longtemps que les travailleurs qui doivent se lever dès l'aube. Sur le fronton de l'étroit couloir qui mène aux commodités, une mention. Le laborieux se lave les mains avant d'aller pisser, l'intellectuel se les lave après. Si la grande salle du rez-de-chaussée est occupée par ceux qui souhaitent être vus, au premier étage, l'ambiance est plus populaire et les discussions vont bon train. Il faut dire que les sujets d'actualité ne manquent pas. Dans une assemblée presque exclusivement masculine, il est davantage question des nouveaux règlements en vigueur au sein des corporations et des récents coups d'éclat anarchistes que des démêlés politiques du général Boulanger ou du supposé faste de l'exposition universelle et du rayonnement de Paris. Ici, personne ne se vantera jamais d'être monté au sommet de la tour de Monsieur Eiffel. Au fond de la salle, dans un recoin, les verres se remplissent pour célébrer la fin du chantier numéro 48. Vincent lève le sien. Trinquons, mes amis. À vous tous. N'oublions jamais que rien ne serait possible, les uns sans les autres. L'équipe est au complet. Même le jeune Henri est présent, alors que, contrairement aux autres, il ne travaille ni à la mise au point, ni à la fabrication des passages. Son rôle consiste à assurer le ravitaillement en nourriture, y compris à aller chercher l'eau au puits dans la cour, et surtout à jouer les messagers. Il collecte les courriers, mais peut aussi emporter à leur destinataire, ce qu'il fait avec une rapidité sans égale, grâce au talent qu'il a développé pour s'accrocher clandestinement aux fiacres et autres attelages. Cela lui permet de traverser tout Paris en moins d'une heure, grâce à l'aide involontaire de quelques cochers qui ne manquent pas de protester lorsqu'ils le repèrent. Pour Vincent, Henri, surnommé « le clou » à cause de sa maigreur, assure aussi d'autres fonctions, plus confidentielles. Lorsque leur compagnon demande des précisions, le gamin répond qu'il fait du gardiennage. Et Vincent s'en sort avec une boutade. Ce soir, pour la première fois, Henri vient de découvrir que lorsqu'il tient son gobelet de vin à une main, ses doigts sont enfin assez longs pour en faire le tour complet et se rejoindre. Il peut désormais l'enserrer dans sa paume avec le pouce et l'index qui se touchent. Il ne va rien en dire, de peur que ses aînés ne se moquent encore de lui et ne le traitent comme souvent de nourrisson. Mais, de fin de chantier en fin de chantier, il attendait cela depuis des années. 3 ans qu'il boit du vin comme un homme, et aujourd'hui, il tient désormais son verre comme un adulte. Il garde sa fierté secrète, profitant de ne pas être pour l'instant la cible des plaisanteries qui fusent. C'est l'Italien qui est visé. Alors, Stasio, raconte-nous cette retouche chez la comtesse. Et n'oublie pas les détails techniques, lance Conrad Goguenard. N'insistez pas, la comtesse est une signora respectable. C'est d'ailleurs pour le rester qu'elle reçoit discrètement ses amants dans son boudoir, ironise Pierre. La tablée éclate de rire et Eustasio avec eux. C'est vrai qu'elle est passionnée, confie-t-il. Elle dit qu'elle trouve chez moi une fougue dont sont incapables ces aristocrates. Elle les juge ennuyeux et répète que rien ne les intéresse, hormis leur petite personne, alors forcément... La comtesse s'encanaille, commande Vincent. J'espère qu'elle est généreuse avec toi. Eustasio réagit vigoureusement. Elle ne me paie pas et ne me donne rien. Je ne suis pas de ce genre-là. Elle est douce, et c'est vrai que nous aimons passer du bon temps ensemble. Vous pouvez vous moquer, mais au petit matin nous oublions ce qui nous sépare pour apprécier tout ce qui nous rapproche. Je n'en ai pas honte. Pardon, Eustasio, je ne voulais pas t'offenser. L'essentiel est que tu sois satisfait de cette relation, ou plutôt de ses réparations. Les 5 compagnons s'esclavent de nouveau. Conrad avale une lampée de vin râpeux et change de sujet. Avec le paiement du dernier chantier, nos pactoles commencent à devenir conséquents. Je ne sais pas pour vous, mais il m'arrive de plus en plus souvent de me demander ce que je vais en faire. Pierre lui fait signe de parler moins fort.
D'ici peu, nous aurons les moyens de vivre comme des rentiers, pas vrai ?
Reprend Conrad, un ton plus bas.
Vous n'y pensez jamais ?
Il interroge son collègue transalpin.
Toi, Eustasio, comptes-tu rester à Paris ou repartir en Italie ?
Qui sait où me mènera le destin ? J'aimerais faire venir mes parents. Ma mère est française, après tout. Peut-être leur acheter un arpent de terre avec une petite maison.
Les yeux dans le vague, il ajoute. Et pourquoi pas posséder un atelier de peinture ou de sculpture ?
Spécialisé dans le nu, plaisante Conrad, tu as déjà le modèle.
Et toi ? Réplique l'artiste amusé. Tu comptes rentrer chez toi ?
Chez moi, je ne sais pas vraiment où c'est, chez moi. Je n'ai plus d'attache, plus de famille à aider ou à retrouver. Je me vois bien voyager un peu, louer mes services à des églises ou des cathédrales en Europe pour leur fabriquer du mobilier. Avoir bourlingué me permet au moins de parler plusieurs langues, et les religieux ont souvent besoin de bons artisans. Ils paient bien. Je pense aussi investir dans l'achat d'un appartement ou dans ces nouvelles actions que les riches s'arrachent, ces parts de mines lointaines qui promettent de fabuleux bénéfices.
Chacun commente l'audace de ce projet, surtout après les déboires des souscripteurs ayant investi leurs économies dans le canal de Panama.
Placer de l'argent dans des affaires dirigées par d'obscurs conseils d'administration. Pour sa part, Vincent n'y croit guère et Eustasio n'y comprend rien.
Pierre annonce avoir d'autres plans. Alors que les regards convergent vers lui, il s'explique d'une voix posée, indiquant par là qu'il est sans doute celui qui a le plus sérieusement réfléchi à son avenir.
Pas question de quitter Paris. Je voudrais rester sur Montmartre et louer un logement d'où je pourrais voir loin malgré le Sacré-Cœur. Pour ce qui est de mon activité, Monsieur Eiffel et sa tour métallique ont démontré tout ce qu'il est possible de réaliser grâce à l'acier. Même si l'attraction doit être démontée dès la fin de l'exposition, le véritable âge de fer commence avec elle. Je parie que le siècle prochain sera celui du métal, et je suis certain qu'il ne manquera pas d'opportunités passionnantes pour un gars comme moi.
Henri s'invite dans l'échange.
Moi, je voudrais devenir docteur.
Devant la réaction moqueuse de ses compagnons, le garçon s'insurge.
Pour sûr que je peux. Ma part d'or me donnera les moyens de faire des études de médecine. J'en suis capable. En moins d'un an, j'ai déjà appris à lire.
Vincent est le seul à ne pas le railler. Il intervient.
Tu as bien raison, Henri. Ne te laisse pas démoraliser par les commentaires des autres. Jamais.
Si tu es déterminé, si tu travailles dur, ce sera possible.
Lis, apprends, étudie.
N'oublie pas le calcul. Dans quelques années, ces mécréants seront bien contents de venir te trouver pour soigner leur carcasse.
C'est vrai, s'exclame Conrad. Dépêche-toi de devenir médecin parce que j'y vois de moins en moins et que j'ai le souffle court.
Pierre ajoute avec un clin d'œil.
Les conquêtes de Stasio finiront par lui valoir une maladie honteuse.
L'Italien rit de bon cœur, mais une fois l'hilarité retombée, il n'oublie pas de demander.
Et toi, Vincent, que comptes-tu faire de ta petite fortune ?
Vincent prend un instant avant de répondre, puis les regarde, un à un.
Le plus important pour moi n'est pas ce que je vais en faire, mais plutôt avec qui.
Nos affaires sont épuisantes et risquées. Nos clients sont compliqués, parfois retors. Chaque projet est un casse-tête, un numéro de funambule sans longe de sécurité. Mais j'apprécie ce que nous faisons. J'aime surtout le faire avec vous. C'est étrange, mais bien que je sois à la tête de notre équipe, c'est vous qui déciderez ce qu'il adviendra de moi.
Henri s'enthousiasme.
Moi, je veux rester avec toi.
En prononçant ces mots, le gamin semble tout à coup plus jeune que ce qu'il s'efforce de paraître d'habitude. Les cinq amis restent un bon moment à spéculer sur l'utilisation potentielle de leurs fonds. Eustasio en vient même à comparer leur divagation à l'aventure de Perrette et de son pot au lait dans la fable de Monsieur de La Fontaine. Comme elle, il s'imagine tellement de choses, même insensées. Si, dans le vacarme de la salle, personne ne saisit leurs propos, un homme ne les perd pas de vue le regard au ras de la visière de sa casquette, il n'a pas cessé de les observer un seul instant, tout en jouant avec un lacet de cuir qu'il s'amuse machinalement à enrouler avec dextérité autour de ses longs doigts fins. Ce soir, il a eu de la chance. Il lui aura suffi de suivre un seul d'entre eux pour identifier toute la bande. Il ne pensait pas s'en tirer à si bon compte. Désormais, il connaît le visage de chacun de ceux qui s'occupent avec tant de soin des secrets des puissants. Le reste ne sera ni long ni très compliqué.